Imagine, j'ai changé.
Non.
C'est ça, cette espèce.
Ah, bah,
ça bouge, oui. Bon, ok. Bon. Alors, écoutez, je vais essayer, comme mais c'est tradition, comme d'habitude, de faire un, de vous présenter au pas de charge une certaine chose. C'est-à-dire pourquoi la question énergétique est une bonne entrée, mais là, je vais aller assez vite. L'inscription des questions écologiques dans l'économie, les deux voies possibles. L'écologie contre la croissance, de la croissance zéro à la thèse de la décroissance durable. Ça, je vais aussi aller assez vite. Mais autrement dit, 2 et 4, un double mouvement, le grand chiasme de l'économie et de l'écologie, et un relevé de conclusion provisoire. Je vais essayer d'être à la fois d'introduire des notions nouvelles pour vous et de m'appesantir sur des choses que je n'avais pas présentées les fois précédentes. Alors, une bonne entrée, la question énergétique. On est en plein dans un problème d'abondance-rareté avec une question de prix des types d'énergie de substitution. Pourquoi c'est une chose particulièrement intéressante en ce moment? Parce qu'on a un problème d'énergie carbofossile d'un double point de vue, épuisement des énergies carbofossiles et de l'autre côté production d'effet de serre, donc réchauffement climatique. Donc on a, c'est par les deux côtés que la question de l'énergie prend à la gorge un développement classique indéfini. Alors il faut le mentionner parce qu'on est en France, parce que dans tous les autres pays du monde on n'aurait pas à dire ça. Mais le nucléaire paraît une solution au problème, comme on l'annonce tout le temps, hein, 85% d'énergie nucléaire, de l'énergie électrique en France est d'origine nucléaire. Donc beaucoup de gens disent que bah, la France est le seul pays du monde finalement à se tirer du problème. Tout à fait vrai sur l'effet de serre immédiat, mais le prochain problème que l'humanité aura à résoudre après le problème de l'effet de serre et du réchauffement climatique sera la poubellisation simultanée de la stratosphère par des différents objets en tout genre qui y sont installés, et deuxièmement la poubellisation des sols, l'empoisonnement des sols qui commence déjà et qui est bien parti. Et l'empoisonnement des sols est non seulement chimique, mais l'ennui du nucléaire, c'est qu'on empoisonne les sols pour des périodes qui peuvent se balader jusqu'à 100 000 ans, ce qui évidemment en termes de notre misérable durée de vie humaine est un peu un problème. Énergie renouvelable, retour au problème économique. Alors, vous voyez qu'on peut toujours développer des énergies renouvelables, on peut toujours inventer des choses. On est en train maintenant de penser réellement à couvrir des régions totalement inutilisées jusqu'à de nouvel ordre, que sont les déserts, panneaux solaires. Et vous voyez que l'Allemagne l'a fait sur des centaines d'hectares, mais là, on pourrait le faire sur des millions d'hectares. Donc il y a toujours des choses, et alors évidemment, comme d'habitude, rappelez-vous qu'en économie, une quantité sans un prix, ça n'existe pas. C'est comme une fourmi de 18 mètres de long. C'est-à-dire, si vous ne parlez pas de prix en même temps que vous parlez d'une quantité, vous ne parlez de rien. C'est comme pour les réserves de pétrole, hein. Les réserves de pétrole, un pétrole à 100 dollars le baril, à 50 dollars le baril, à 400 dollars le baril, ne sont pas les mêmes. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui deviennent des réserves à partir du moment où le prix monte. Il est évident que si la tomate vaut maintenant 200 euros le kilo, je vous fais de la tomate quand vous voulez sur l'épaule. Aucun problème. À ce prix-là, j'arrive même à installer des serres suspendues au milieu des tempêtes de neige, me procurer de l'énergie, etc. En revanche, évidemment, si la tomate vaut toujours ce qu'elle vaut à peu près au maximum une dizaine d'euros le kilo et que le prix de l'énergie monte, vous allez avoir des centaines et des milliers de serres en Loire-Atlantique, en Hollande, qui vont fermer parce qu'il n'est plus possible de produire de la chaleur en plein hiver pour faire pousser les tomates. Alors, chose, exemple, le protocole de Kyoto, le rapport Stern, qui sont des tentatives de marchandisation ou d'établissement d'une valeur prix pour des quantités qui jusque présent n'en avaient pas. Le protocole de Kyoto, ça consiste à dire la température de l'atmosphère est une valeur, parce que c'est une valeur pour l'humanité qui conditionne le fonctionnement de toutes les autres valeurs. Donc on doit avoir des objectifs. C'était l'idée du rapport de Kyoto. Et la solution qui a été trouvée par des polytechniciens, qui à mon avis sont complètement imbibés du raisonnement que Gilles le Cardinal dénonçait, ça a été de créer cette entité monstrueuse qui est le droit de polluer. qui est une quantité négative. J'ai polémiqué avec Laurence Dubiana dans le cours de l'Université de tous les savoirs pour montrer qu'il y avait de très très grands périls en soi à instrumentaliser, à créer une grandeur négative qui est le droit de polluer. Parce que, tout simplement, on a ce qu'on appelle des effets. C'est l'effet crotte de chien. Si vous dites aux gens de la ville de Paris, par exemple, vous allez payer un impôt, ceux qui possèdent des chiens vont payer un impôt, eh bien, ils vont dire, donc on va ramasser les déchets qu'on fait, donc j'ai le droit d'aller faire crotter mon chien devant le paillasson du voisin ou partout dans la rue, parce que de toute façon, il y a un service public qui le prend en charge. Si vous créez un droit de polluer, vous créez dans la tête des gens quelque chose d'une légitimité marchande. Hein. Du moment que ça s'achète, hein, ça a un prix, je peux me le payer. J'ai le droit de... Bon, ça, c'est un droit très déplaisant. Vous voyez. Néanmoins, alors... si on peut à l'extrême limite, et c'était le cas de la démonstration d'Alain Lipiette, auquel moi je m'étais opposé fortement dans les Verts, on peut dire que si dans un cadre global de restriction de la hausse de la température du climat, si on a la nécessité d'agir assez vite, et même très vite, il y a certains mécanismes qui paraissent contre-productifs s'ils sont appliqués à tout le monde, mais qui, pour des grands industriels, présenteraient l'avantage plus fort que celle de la réglementation et de l'amende, c'est-à-dire on les prend par l'appât du gain. Hein, puisqu'on dit qu'eux, ils sont commandés par l'appât du gain, si on établit un droit de polluer, un marché des droits de polluer, on va créer une incitation financière extrêmement forte chez les vertueux, parce que non seulement, vous savez que ce que disent les philosophes, c'est que la vertu n'a pour récompense autre chose qu'elle-même. Et que c'est pas une histoire, la vie éternelle ou le paradis, c'est pas j'ai gagné des points, donc j'ai le droit de me réjouir au paradis. Spinoza dit le sage, la récompense du sage, c'est la sagesse, c'est pas le fait qu'il va gagner beaucoup d'argent parce qu'il a été sage. Hein, donc en ayant été bien sage pendant 10 ans, il va avoir le droit de tout se payer au paradis, les petites pépées, boire comme l'alcool, etc. Ça n'a pas de sens. Bon, eh bien. Quand vous dites aux gens qui ont l'appât du gain, vous leur dites la vertu va être récompensée, si vous êtes vertueux, vous allez non seulement avoir des incitations fiscales, mais en plus vous allez pouvoir vous servir des mécanismes du marché pour vous en foutre plein les poches. Parce que ceux qui n'ont pas été vertueux, ils vont devoir vous acheter aux enchères. Et moins plus il y a de gens qui veulent, qui ont besoin d'acheter des droits de polluer, et plus vous en avez, plus vous allez pouvoir leur vendre cher. Hein. Donc ça, dans un contexte très limité, c'est un peu comme l'affirmative action, on peut dire que, en soi, c'est une monstruosité, mais que, dans une valeur purement instrumentale, pour atteindre un objectif plus vite, ça peut se défendre. Bon, avec des contre-effets redoutables. En revanche, le rapport Stern est très intéressant. Le rapport Stern annonce, il a été rendu public, ça a été le dernier acte du gouvernement Blair, il annonce que, si nous n'agissons pas, et si les gouvernements n'agissent pas très vite sur le climat, sur les rejets de gaz à effet de serre, nous allons au-devant de catastrophes, dont je vais vous donner un indice, une hausse de 70 cm de l'eau du niveau de la mer, et qui est bien partie compte tenu de la vitesse de fonte du glacier du Groenland, de l'Antarctique, etc., et de l'Arctique, une hausse de 60 cm de niveau d'eau dans le Bangladesh détruit 60% des terres arables. Détruit 60% des terres arables. Par invasion de la salinité dans des zones, et vous savez que le sel, la mer, c'est totalement, ça rend stérile les terres. C'est pas pour rien que les Romains jetaient du sel sur les ruines de Carthage, pour pas que ça repousse. Donc là, il y a un problème majeur, et le rapport Stern dit la chose suivante, non seulement le changement climatique va aller beaucoup plus vite que ce que les experts du GIEC ont prévu, parce qu'il y a des effets cumulatifs qui n'ont pas été pris en compte, parce qu'on est dans un système complexe, hein, il y a la deuxième étape, etc., de ce que vous a exposé brillamment ce matin Gilles, mais, dit-il, les effets humains vont être cataclysmiques, c'est-à-dire il y aura des effets plus forts, amplifiés, parce qu'on n'a pas affaire simplement à des êtres inanimés, on a affaire à des êtres animés, qui peuvent prendre des machettes, des pioches, des pelles, aller se pendre, s'étriper entre eux, aller voir sur les voisins, etc. Et ce que dit le rapport Stern, et là il quantifie, et ça a acheté un show immédiat sur tout le monde, il a dit, il faut que l'on consacre un point de croissance par an, quel que soit le niveau de la croissance que nous réalisons, le minimum pour éviter que la température ne monte de 3 degrés d'ici à la fin du siècle, de 2100, en 2100, c'est qu'il faut consacrer 1,1% du PIB par an. 1% du PIB par an, ça veut dire qu'en 30 ans, c'est un doublement où vous renoncez au doublement du PIB. Quand vous avez des économies en croissance, alors, on va descendre le diagnostic pour être gentil. Dans le cas, si vous voulez, d'économies très développées, qui sont très prudentes comme les européennes et qui n'ont pas détruit des millions d'hectares par jour ou par an, comme l'économie américaine ou comme des hectares de terres arables, ou comme l'économie chinoise, 1% de PIB pour des économies qui font difficilement 2 ou 3%, vous voyez ce que ça signifie. C'est colossal. Ça veut dire que là, vous êtes dans une révolution de la redistribution. Mais dans le cas chinois, compte tenu des dégâts en cours et à venir, sur les 10% ou les 11,5% de points de croissance qu'a fait la Chine, il faudra en consacrer 7,5% environ pour réparer les dégâts environnementaux. Et donc la Chine retomberait au niveau de croissance anormal de tout le monde, hein, c'est-à-dire du 2 ou 3%. Donc adieu le rattrapage. Comme vous savez, l'URSS a eu un fantasme en 1960, c'était de rattraper les États-Unis. On a vu ce qu'il en a été. La Chine n'est pas loin d'avoir un problème comme ça. Alors, ah oui, évidemment, j'ai oublié que ce machin, donc il va m'emmerder. Bon, et pourtant, je suis sur performance maximale, je ne comprends pas, il aurait dû. Allez.
Et sur secteur ?
Non, c'est pas le cap, c'est parce qu'il s'est mis en autonomie et quand il se met en autonomie et qu'il s'éteint, pour éviter de bouffer des piles et du courant, mais pourtant je l'ai mis, je comprends pas. Bon, ça m'embête de pas avoir le guideline. Bon. Alors. Ah. Bon, bah écoutez, on va repartir. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est long.
La machine est lente.
Bon. Bon, malheureusement, je n'ai pas le truc imprimé, donc il faut que je... Voilà. Ça veut dire ça.
Si vous débranchez, rebranchez le câble.
Allez, on va essayer. La bonne technique. Non, ce qui m'embête, c'est que c'est mon truc qui n'apparaît pas. Comment ? Non, je ne l'ai pas sur mon écran du tout, ce qui me paraît bizarre. Tiens, tu veux pas, Pascal, t'en occuper ?
Je te le mets sur le mien.
Oui, mais t'as pas le...
Si, je l'ai.
As-tu là, mon machin ? Quoi, le dernier, celui de maintenant ?
Tu l'as changé par rapport à ce
que... Oui, je l'ai changé, oui.
Je l'ai pas.
Ah bah attends, on va te le donner... Non, je vais te le donner en clé, t'as une clé ?
Je t'avais interdit de travailler dessus.
Comment ? Non, mais t'as une clé ou pas ?
Moi, j'en ai.
Bon, attendez, pour là. Ouais, attends, et pour l'instant, non, mais moi j'ai mon truc qui s'est éteint carrément. Regardez, il y a un truc qui est bizarre. Attends, j'ai le fil. Ah, il y a eu un truc. Ouais. Ben, j'ai l'impression qu'il s'est carrément éteint. Tu vois ? Je suis désolé, c'est que j'ai le problème de la batterie qui ne marche pas et donc il me fait de la merdier. Ce qui n'arrive jamais, mais bon. Qu'est-ce qu'elle a fait en plus ? Conneries. Mais là, j'arrive même plus à l'éteindre. Alors, c'est bien. Oui, c'est éteint, en fait. Il a fait un truc qui me plante beaucoup et qui m'embête. Non, attends, tire pas trop. Non, le fil, ça fait un faux contact. Pose-le, sans le toucher. Voilà, pose-le.
Il y a un faux contact là-bas.
Oui, mais c'est pas ça. C'est ce que ça aurait dû faire, c'est que... Je ne sais pas pourquoi ça a éteint mon ordinateur. Et là, il ne redémarre pas. Ou une... Alors, oh là là, quelle merde. Non, mais là, j'ai l'ordinateur. Là, vous avez l'homme bancal. L'homme au cyborg bancal, c'est-à-dire que sans sa prothèse numérique...
Ah, on s'est moqué de moi tout à l'heure avec le cyborg.
Non, ça m'inquiète pas, c'est simplement pour la lisibilité. Bah écoute, alors on va se démerder avec le...
Oui.
Donne-moi, je vais
non,
la...
Je dis, continue, ça fait rien,
vous verrez pas. Ah, tu l'as là ? Oui, d'accord.
Mais toi, tu connais par cœur. Mais...
Oui. Non, mais je préfère l'avoir sous comme
guideline.
Oh, putain, c'est... pour les ingénieurs, tenez là, vous gagnez le gros lot si vous me trouvez un truc qui se défait plus vite quand on a des gros doigts que ce machin stupide. Alors.
Tout est enregistré, hein.
Oui, oui. Tout sera enregistré. Bon. Alors, réaliser. Alors, j'en viens à la. Oh, oh oui, il y avait le rapport Stern, justement, je l'avais mis. Bon, alors. Qu'est-ce qui va nous intéresser en fait dans l'histoire, si vous voulez, des économies d'énergie, comme, que j'ai pris comme une bonne entrée, c'est qu'on va endogénéiser chez les agents les prix de l'énergie en incluant le coût de son recyclage. Par exemple, c'est un moyen très fort. Et ça va, maintenant, qui est additionné à la fois un simple problème de coût, mais qu'on va additionner, qu'on va charger du problème global de l'effet de réchauffement climatique, donc le concept qu'emploient tout le temps les écologistes maintenant, qui est l'empreinte écologique. Ça veut dire que quand vous prenez l'avion quelque part, vous pensez que vous développez beaucoup la connaissance, mais en même temps, c'est un coût effroyable par rapport à la visioconférence, qui est que vous rejetez des tonnes de chaque personne qui se balade dans un avion rejette des tonnes, évidemment, de carbone dans l'atmosphère. Alors, globaliser, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire révéler la balance globale des externalités. Je reviendrai sur ce terme, mais c'est une chose très importante. L'autre élément, c'est une dilatation de l'horizon temporel. C'est-à-dire une difficulté. En effet, d'habitude, les économistes pensent que le long terme, pour eux, c'est 5 ans. C'est vraiment un peu comme des insectes. En économie, le long terme, c'est 5 ans. C'est pas hasard si la planification économique a toujours eu comme durée de 5 ans. Qu'est-ce que c'est que le court terme pour un économiste? C'est moins de 3 mois. Qu'est-ce que c'est que le moyen terme? C'est 6 mois, 1 an. D'accord? Donc c'est très court. Pourquoi ça? Tout simplement parce que si vous êtes capable de me prédire à plus de 3 ans la valeur des taux d'intérêt d'une monnaie et la valeur des taux de change, eh bien je vais vous tire mon chapeau, mais je peux dire qu'aucun météorologue n'y arrivera, même en ayant des batteries de 5000 équations. Donc il y a une incertitude totale, et d'habitude, se projeter dans le futur avec des prix, des taux d'intérêt, des taux d'inflation, des taux de change, eh bien, il est extrêmement difficile de dire quoi que ce soit à un horizon de plus de 5 ans. Alors vous allez me dire, bah, ça tombe bien, puisqu'on nous emmerde avec le prix futur du pétrole, comment est-ce qu'on peut parler du prix futur du pétrole à plus de 5 ans? Bon, parce que précisément dans le prix du pétrole à plus de 5 ans, il y a des composants qui ne sont pas... Ah, c'est là? Ah non. Ah. Alors. Bon. Maintenant, inscription des questions écologiques dans l'économie, les deux voies. L'inscription de l'écologique dans l'économique se faisait de façon traditionnelle, de la façon suivante. On regardait la compatibilité des impératifs écologiques avec les impératifs économiques. C'est exactement ce que Gilles mentionnait. Hein. On va voir les gens de notre responsable, qu'il avait appelé notre responsable de développement durable, va rencontrer le directeur financier ou le responsable coût du centre coût, qui va dire, qui va créer... installer les contraintes à l'intérieur duquel on pourra faire du supplément d'âme écologique. C'est-à-dire, grosso modo, vous allez, les choses sont déjà faites et le développement durable, ça devient de la com. C'est d'ailleurs pour ça que les écologistes exaspérés récusent le terme de développement durable et parlent de développement soutenable. Ce qui est d'ailleurs incompréhensible pour des Américains ou des Anglais, puisque le terme est le même. Hein? Mais... si vous voulez, il y a beaucoup de com qui se fait sur l'écologie, dans la mesure où l'écologie, bizarrement dans les entreprises, c'est surtout un budget de communication. Ce n'est pas un budget effectif qui a un impact sur les prix, la conception, c'est important, c'est simplement des budgets de communication avec les associations, c'est le mécénat, etc. Alors, là, l'autre voie... Voilà, la caverne de Platon est passée, voilà.
Excuse-moi, mais il y a des nouveaux arrivants.
Il y a des nouveaux arrivants
de province.
Donc, vous savez ce que ça donne? Ça donne que chaque choix écologique majeur se heurte à une impossibilité de dégager les ressources nécessaires, les conséquences en termes d'emploi ou les conséquences en termes de niveau de vie. Quel a été l'argument principal des États-Unis pour rejeter le protocole de Kyoto, président Bush-Dixit? Mais je pense que malheureusement, le président Clinton, avant, n'avait pas fait preuve d'une beaucoup plus grande flexibilité, contrairement au vice-président Al Gore. Tout simplement, il est impossible que les États-Unis renoncent par des mesures drastiques en adoptant le protocole de Kyoto, que les ménages américains renoncent à leur cinquième voiture. La voiture de monsieur, la voiture de madame, la voiture du premier enfant, la voiture du deuxième enfant, et la voiture 4x4 pour le chien. On appelle ça la voiture du chien. Donc les États-Unis ne vont pas renoncer à la voiture du chien. Et ça, c'est absolument dirimant, parce que ça veut dire que vous entrez, vous vous installez, on ne va pas vous manger. La seule chose qui peut vous arriver, c'est des postillons. Alors, on connaît, ça c'est la façon de poser les choses. Et dans les trois quarts des cas, vous avez des gens qui vous disent, bon, écoutez, l'écologie, d'accord, à l'intérieur d'un budget préalablement délimité. Bon. Rapport Stern, beaucoup de gens ont dit, ah oui, très intéressant, mais évidemment, pas question d'y consacrer 1% du PIB. Parce que vous doutez bien que consacrer 1% du PIB sur une croissance de 1,5%, ça veut dire accepter une croissance de 0,5%. Si M. Sarkozy, qui veut chercher la croissance avec ses ongles, accepte ça, ma foi, ce sera formidable, mais j'ai de très grands doutes qu'il le fasse. Alors, quel est l'autre raisonnement? C'est le passage à un raisonnement inverse de subordination de l'économique à un impératif inconditionnel. C'est-à-dire, ça revient à encastrer fortement l'économique dans un principe inconditionnel. C'est-à-dire, la survie de l'espèce et de la Terre n'a pas de prix économique actuellement, ça n'a pas de prix. Et le fait que ça n'ait pas de prix crée un inconditionnel. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, si le remplacement de la biosphère ou l'aménagement de la biosphère peut se faire, simplement c'est une question de fric, eh bien allons-y. Et les règles du marché vont très rapidement nous conduire, tout doucement, vers ce choix. Économiquement rationnel, après un certain tâtonnement, quelques pertes de quelques milliards par-ci et par-là, quelques petites guerres, mais enfin on y arriverait. Bon. Si au contraire, on n'a pas de solution, c'est-à-dire pour l'instant on n'est pas capable de migrer vers une autre planète du système solaire ou vers une exoplanète, pour l'instant ça semble totalement irréaliste, donc il n'y a pas de prix économique, c'est-à-dire que la biosphère c'est un impératif absolu. Et tout ce qui fiche en l'air la biosphère, eh bien, c'est comme si nous étions déjà en état de respiration artificielle. Et vous savez que quand on habitue un organisme à la respiration artificielle, au bout de 15 jours, il n'arrive plus à respirer quand vous débranchez la machine. Il faut le savoir, ça, c'est un truc de physiologie simple. Donc, si on se met sous respiration artificielle, c'est-à-dire sous fabrication d'un air vicié, etc., on aura quelques problèmes. Alors, si on pose cet impératif inconditionnel, et voyez quel est le lien assez profond avec tant ce qu'a dit Gilles, qui vous a dit tout à l'heure, attention, le développement durable, ça n'est pas un supplément d'âme, ni le xième critère qu'on rajoute au raisonnement d'optimalisation, enfin d'optimalité. Et ce que vous a dit l'interlocuteur précédent, qui a brillamment parlé de l'environnement, au fond, d'une éthique environnementaliste, ça revient à dire qu'il y a des inconditionnels, il y a des valeurs intrinsèques. Une valeur intrinsèque fait que vous ne pouvez pas dire c'est combien j'achète ou je me la paye. Elle est là, et que vous la payiez ou pas, de toute façon, elle est là. Si vous la détruisez, c'est la même chose, et il y a de fortes chances que ce ne soit pas marchandisable facilement. Soit que ça résiste, soit qu'il y ait des impossibilités techniques, etc. Alors, la méthode de résolution des problèmes va être globalement de recourir à deux et localement commencer par un. C'est-à-dire, les deux choses sont simultanées. On peut dire que nous sommes, moi c'est ce que j'ai appelé dans mon petit livre sur le capitalisme cognitif, dans une phase qui est un achèvement, ce que j'appelle la deuxième révolution du néolithique. Quand les hommes se contentaient de grappiller... Quand les hommes se contentaient de grappiller, ça s'appelle le paléolithique, les fruits déjà existants sur la terre, de chasser, de prélever, sur les ressources en animaux pour leur alimentation. Il n'y avait aucune, ce qui était dicté strictement, la population du paléolithique et les ressources qu'elle trouvait étaient dictées par un équilibre classique bien connu maintenant, qui est proie, prédateur, etc. Hein? Trop de pression sur l'environnement, disparition des ressources, donc extinction ou réduction du troupeau humain au nombre nécessaire ou possible, compatible avec les ressources de l'environnement. À partir du néolithique, on commence à domestiquer, à faire évoluer par exemple l'épeautre, on crée, autrement dit, le blé sauvage, et on le transforme en blé. On commence à stocker. On commence à gérer un capital de ressources. Alors, on pense que les chasseurs déjà le faisaient. Mais dans le cas du néolithique, si vous voulez, les chasseurs n'élevaient pas, ne domestiquaient pas les animaux et ne créaient pas un surplus. Alors que là, avec le néolithique, il y a une mutation tant de la culture des animaux, de la halieutique, c'est-à-dire de la pêche, des ressources matérielles et naturelles, puisqu'il y a modification des sols, c'est le début de la culture. Bon. Simplement, au niveau paysan du néolithique jusqu'à peu près le 18e siècle, ou 17e siècle, on est dans un équilibre à peu près stationnaire. C'est-à-dire qu'au fond, c'est surtout le facteur humain, la disponibilité de facteurs humains qui modifie les rendements. Il y a une amélioration très lente, une construction des outils, etc. Mais on bascule avec la mobilisation de la technique à des niveaux qu'on connaît à partir de l'agriculture de type industriel. Et qui là va modifier profondément l'environnement, mais pendant un certain temps, durant ce qu'on a appelé la révolution du néolithique, comme le disait Lévi-Strauss, on se servait, si vous voulez, on savait qu'il y avait des limites extrêmement fortes qui étaient l'équilibre global. Les Indiens de la baie d'Hudson, au fond, avaient une vision extrêmement claire de ce qu'un territoire pouvait supporter comme animaux et ce qu'il pouvait prélever sur ce territoire. Et ça supposait, notamment, il suffit de penser qu'un cerf a besoin de 500 hectares de forêt pour ne pas bouffer et dégrader le taillis, le petit taillis. Vous voyez qu'il fallait des milliers d'hectares canadiens étaient tout à fait bienvenus pour des populations extrêmement clairsemées. C'est le même principe en Amazonie, etc. Et donc là, on peut pratiquer des cultures sur brûlis, on peut prélever, etc. Bon, à partir du moment où l'homme est capable de modifier l'environnement à un niveau où il bouleverse les équilibres, à un niveau où il bouleverse les équilibres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, une transformation radicale qui fait que pendant pratiquement jusqu'à la fin du XXe siècle, on va oublier les effets globaux de dégradation des sols, de dégradation des nappes phréatiques, de pillage des ressources externes qui se présentent en quantité illimitée. Aucun industriel, industriel du lin dans le Nord, ne va se soucier ce qu'il exploite fondamentalement et dont il a besoin, la pureté des eaux, des rivières. Quand vous pensez que la Lys et l'Armentière étaient les rivières qui, en France, avaient la plus grande pureté d'eau et qu'elles ont été transformées en l'espace de 70 ans en cloaques irrémédiables, vous avez tout à fait un exemple de pillage pendant l'ère de l'industrialisation de toute ressource rare, ou qu'elle soit renouvelable en ne la renouvelant pas, ou de ressources rares non renouvelables qui sont détruites irrémédiablement. Alors cette destruction se continue, ne se voit pas, elle est rejetée dans une sphère non marchande, et ce pillage se présente au contraire comme une amélioration et un produit de la technique. Très longtemps, les gens vont penser que le miracle de l'industrie, c'est uniquement le cerveau humain, c'est le travail d'un grand nombre de gens commandés par des processus rationnels qui expliquent le surplus du produit, la productivité. Et puis on s'aperçoit maintenant avec une lecture rétrospective qu'en réalité, le caractère absolument dévastateur du capitalisme industriel a bouffé, a dû une grande partie de son efficacité apparente, marchande, par le fait qu'il a bouffé, il a consommé des ressources non marchandes qui n'apparaissaient pas dans son bilan.
Si vous voulez.
Et évidemment, c'est le même principe que les subprimes, si vous avez un bilan dans lequel n'apparaît pas l'intégralité des transactions, eh ben vous pouvez en prendre à votre aise. C'est-à-dire que vous allez faire apparaître des gains qui vont être imputés de façon erronée à la technologie, à la puissance du travail humain, à une puissance mystérieuse du capital en tant que tel. Et puis maintenant, on est en train, on a tiré les traits, et maintenant la note arrive. Et la note arrive, elle est formelle, c'est-à-dire que le zozo animal doté de langage, comme l'appelle Aristote, zoon, logon, c'est-à-dire l'homme, l'animal humain doté de langage, de logos, est arrivé à un exploit sans précédent, c'est qu'il a, il est capable de foutre en l'air, de détruire un nombre d'espèces considérables, ça doit être quelque chose comme 350 par an, irrémédiablement, qu'il est capable d'avoir empoisonné des sources considérables, bref, et là arrive la traite. Et la traite, c'est le biotope. C'est-à-dire que tout simplement, on en est au point où c'est l'espèce de couche qui entoure la Terre et qui nous assure la viabilité et la possibilité même de vivre et de respirer qui est en cause. Donc là, il y a une addition très lourde qu'il faut payer. Et il faut les payer en l'intégrant dardard dans le raisonnement économique parce qu'on est déjà très très loin du si vous voulez, le compte à rebours, disons, sur les 24 heures qu'on avait, hein, pour reprendre la métaphore 24 heures chrono, on est plutôt vers la 24e heure qu'à la première heure. C'est-à-dire qu'il reste peu de temps pour inverser la vapeur. Alors, non, c'est ça.
Oui, ça c'est pas mal.
Ah oui, excuse-moi. Bon, alors, donc, je vais aller très vite, côté sombre, vers un monde matériel fini où les obstacles s'accumulent. Ça ne date pas d'hier. Ça fait 40 ans que le Club de Rome, 70, quasiment 38 ans, que le Club de Rome a fait un rapport retentissant en disant les conditions de la croissance illimitée à 2-0, enfin à 2 chiffres, c'est terminé. D'où le concept de développement soutenable, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et en 1991, le WWF, mais surtout l'Organisation des Nations Unies, hein, le PNUE, définissent le développement durable comme le fait d'améliorer les conditions d'existence des communautés humaines tout en restant dans les limites de la capacité de charge des écosystèmes. Hein, tout en restant dans les limites de la capacité de charge des écosystèmes. Donc c'est l'idée que les systèmes complexes sont un point de rupture. Et qu'au-delà de ce point de rupture, on est dans ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent un déséquilibre. C'est-à-dire, si vous voulez, on est dans un équilibre instable. Les systèmes complexes sont dans un équilibre instable. Pour donner une bonne métaphore, vous prenez, alors moi aussi je vais utiliser NA.
Tu vois, hein, le truc, pour vous donner une idée très simple,
le déséquilibre, un équilibre stable, je vais vous en donner un. Voilà. Alors, si vous êtes là-dedans, si vous avez une boule, là vous avez une surface, alors un équilibre, le prototype de l'équilibre évidemment totalement stable, c'est ça. Hein. Vous avez une boule qui est là, où qu'elle soit, elle va hop, 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 et elle va arriver là. D'accord ? A, T, N. Quand vous êtes dans un équilibre qui vous paraît stable, vous mettez votre boule ici, elle va faire la même chose et vous avez de grandes chances qu'elle reste là. À condition que le choc exogène qu'elle reçoive soit strictement inférieur à quoi ? Eh bien à l'énergie qui l'amène ici. Parce que si elle est là, elle va dégringoler jip par là. Et si elle dégringole par là, la force qu'il faudrait pour le remettre va être énorme, et quand elle va arriver là, elle va dégringoler, elle va reprendre là, et elle va rebasculer là. Ça, c'est un équilibre instable. Et c'est malheureusement le cas de la plupart des systèmes complexes de type vivant. C'est-à-dire que la zone est extrêmement fragile, la zone où vous pouvez agir est extrêmement fragile. Alors, je pose. De la croissance limitée à la décroissance soutenable. Une idée fondamentale, c'est que le rythme de croissance économique actuel fait peser sur l'écosystème, puis directement sur la biosphère, une pression insupportable. On extrapole le take-off chinois et indien que nous avons, que vous avez sous vos yeux, et qui encore était une extrapolation il y a peu de temps. En dotant la moitié de la population de ces pays d'un niveau égal au niveau occidental choisi, année 1950, année 1970, etc. Et on observe les conséquences en termes de demande d'énergie, de pression sur les ressources naturelles, en eau en particulier, sur les matières premières, fer par exemple, vous n'avez qu'à regarder le prix du fer aujourd'hui, et puis en matière de pollution. Et on en déduit une impossibilité, alors là tout le monde est d'accord, qu'il est le scénario du rattrapage en termes de niveau de vie est totalement impossible, pour une raison très simple, c'est qu'il faudrait 5 terres. C'est-à-dire qu'il faudrait 5 fois la totalité des ressources naturelles que l'être humain a été capable, depuis 2 siècles, de tirer de la Terre pour faire fonctionner cette machine infernale. Donc là, il y a quand même un problème. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pas Humbert, c'est Hubert, une faute d'orthographe. Des tensions géostratégiques sur l'eau, bien plus que sur le pétrole, parce qu'il y a des énergies alternatives, l'eau, il n'y en a pas. On peut avoir le vent, on peut avoir le soleil pour dégoter de l'énergie, mais alors de la flotte, c'est la ressource rare parfaite de l'univers et de la vie d'ailleurs. C'est ce qu'on cherche désespérément dans les exoplanètes. Alors, impossibilité de traîner sans déséquilibre majeur, tension stratégique, pollution de l'effet de serre, pic de Hubert. Alors le pic de Hubert, vous savez, c'est pas une cloche de Gauss symétrique, comme souvent les gens le présentent. C'est que vous avez, plus vous avez la première partie de votre cloche qui monte à un maximum, et plus vous avez une partie énorme, hein, le pic de Hubert, voilà. Ce que les gens font souvent, le pic de Hubert, c'est qu'il y a eu, si vous mettez les années et le maximum d'extraction de pétrole, vous avez ça et vous faites une magnifique cloche symétrique. D'accord ? Voilà. Et vous dites, ça a monté, puis ça va passer par un maximum, après ça va descendre. Bon. En réalité, c'est plus subtil que ça, parce que c'est ça. Et après, c'est ça. Ça veut dire que pour mémoire, un puits de pétrole bien exploité, on tire 37% de ce qu'il y a en dessous. Un puits de pétrole mal exploité, et c'est le cas actuellement de l'Arabie Saoudite, qui pour des raisons de pression mondiale, injecte de l'eau salée à haute pression dans les puits pour faire sortir plus de pétrole, pour augmenter la pression et faire sortir. Là, vous perdez, vous n'avez plus que 27% de la ressource. Et quelquefois 20%. Donc, on a monté énormément les ressources. Un certain nombre de firmes comme BP, Shell, etc. ont fait des scandales parce que pour des raisons d'actifs boursiers, elles ont menti totalement sur les réserves. Parce que la réserve est un élément d'appréciation du cours en bourse. Donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on est déjà... Alors la discussion, c'est de savoir si on y est déjà depuis 2005, disent certains, et d'autres qui s'attendent 2010, 2012. De toute façon, c'est clair que là, on va avoir une chute drastique, cumulative. Ce qui fait d'ailleurs qu'à Abu Dhabi, la plupart des pays du Golfe sont en train de préparer, eux, la relève. Ce qui fait que la Suède a décidé qu'en 2012, il n'y aura plus une goutte de pétrole qui coulera dans quoi que ce soit en Suède pour servir à quoi que ce soit. Alors reste à savoir s'ils vont tenir, y compris face au gaz soviétique qui pour l'instant est le mirage, la sirène, parce qu'il arrive à peu de coups. Enfin voilà. Bon. D'où nécessité de penser radicalement le développement. Alors, quelle est évidemment l'idée? Si vous admettez tout ce truc, vous allez dire c'est épouvantable, c'est le truc complètement noir, on est vraiment barré pour un scénario catastrophique, géostratégique, c'est un Kenya généralisé. Alors, ce qui se passe actuellement au Kenya est généralisé. Mais je ne pense pas, parce que il s'ouvre en même temps une nouvelle frontière que j'appelle celle de la noosphère. C'est-à-dire une nouvelle économie de la noosphère, qu'on peut appeler aussi une société pollen, ou l'apparition d'instruments, c'est la révolution du numérique, qui nous permettent de nouveau mapping des interrelations qui existent entre ça, et une nouvelle façon de considérer ce qu'est un développement et la possibilité de le faire. C'est-à-dire un développement durable, ça ne veut pas simplement dire comme le disent malheureusement certains écolos catastrophistes sur un discours quasiment religieux, c'est il va falloir se serrer la ceinture, ça va être le temps de guerre, le rationnement, vous allez voir, etc. C'est plutôt l'invention par une société d'un moyen de fonctionner qui dépassera, qui nous fera considérer la société dite d'abondance dans laquelle on vit comme une société de merde. Et comment on l'a pas quittée plus tôt. Ça, ça suppose une transformation à moyen de vie. Alors oui, alors je vais être en bas. Alors, la conquête de la notion de système complexe et de système vivant, vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà vu. Je voudrais insister, puisqu'on est là dans les notions fondamentales, sur trois notions qui sont très importantes. D'abord, le déclin du paradigme mécanique. Ça tombe bien, il y a des gens qui sont dans le génie mécanique et génie des systèmes mécaniques. C'est le moment de les mettre à contribution, ou plus exactement, de leur faire se poser des interrogations. Le paradigme du mécanique a été très bien démonté, si vous voulez, au sens où il repose sur le principe de la thermodynamique et le fait de la dissipation d'une énergie initiale qui tend vers grosso modo moins 273 degrés, qui est la température moyenne de l'univers, et donc qui indique que vous avez une dégradation irréversible de l'énergie et que tous vos systèmes, toute la force mécanique sur laquelle vous allez faire reposer les machines, va être nourrie par la consommation d'une source, la dissipation d'une source d'énergie. En pure perte, ou plus exactement dans le froid intersidéral global vers lequel toute chose tend. Ça, c'est à peu près la vision du principe de la thermodynamique. Avec une autre chose très importante, c'est que les machines multiplient la puissance du travail humain dans un rapport, mettons, de 1 à 10 000, avec une consommation en énergie qui, certes, a fait beaucoup de progrès depuis le début, mais qui est quand même proportionnelle au rendement fourni. Ça veut dire que vous avez une relation de proportionnalité. Ce paradigme mécanique a été fortement attaqué, si vous voulez, à partir du moment où c'est plutôt des biologistes qui sont mis à penser le vivant et qui se sont mis à penser non pas la dissipation énergétique, l'entropie, mais la négentropie. C'est-à-dire que la caractéristique d'un système vivant, c'est de réussir à, avoir un système qui tourne en énergie. C'est-à-dire qu'il ne dissipe pas l'énergie. C'est finalement ce que vous appliquez quand vous faites maintenant les maisons ou les tours qui vont consommer zéro énergie. En tout cas, qui vont ne pas plus en consommer qu'elles n'en reproduisent. Donc, qui vont avoir un bilan énergétique à zéro au lieu d'avoir une simple dissipation d'énergie, de chaleur. Alors, c'est le modèle de Prigogine. Et c'est un modèle qui inspire énormément tout ce que je vais appeler la noosphère, par rapport à la biosphère. Et je parle, évidemment, biosphère est déjà une conquête par rapport à l'univers de la mécanique, qui est un espace indifférencié, c'est l'espace cartésien, c'est de la res extensa, qui est un espace indifférencié, etc., vide dans lequel la question de la conservation de l'énergie ou d'une couche qui nous protégerait, comme c'est le cas de la biosphère, n'existe pas. Dans le cas de la noosphère, vous avez la fin du paradigme mécanique. Parce que le rendement de cet ordinateur est lié à votre effort, à votre travail, mais dans l'ordinateur que votre cerveau, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a aucune différence entre la consommation en énergie d'un être humain qui ne va absolument rien produire de transcendantal du point de vue cérébral, et un cerveau qui, j'allais dire un cerveau einsteinien. Il n'y a aucune différence, c'est-à-dire qu'ils consomment tous la même quantité. Il faut un corps pour que ça marche, il faut qu'il y ait des vitamines, il faut qu'il y ait des acides gras, il faut qu'il y ait des protéines, il faut que... Mais c'est la même chose que votre ordinateur. Votre ordinateur, ce que vous tirez de l'ordinateur, n'a aucun rapport avec la quantité d'énergie qu'il bouffe. Ça, c'est un modèle dans lequel on ne va pas vers une consommation d'énergie exponentielle. C'est-à-dire qu'un modèle qui repose sur le développement du cerveau, ne voilà. Bon. Première chose. Deuxième exemple, à détruire le modèle input-output. Quand vous avez fait en mathématiques de la maximisation, etc., dont Gilles vous a rappelé les limites, vous faites en général en économie, vous passez en économie, et là vous retrouvez des choses qui vous sont chères, qui sont chères à votre cœur, qui sont des modèles d'optimisation input-output. Alors vous dites chic. Nous, ingénieurs, on est dans le terrain conquis. Et tout va bien. Bon. L'ennui, c'est que le modèle input-output correspond absolument à un modèle classique de la mécanique. En revanche, Si vous regardez les modèles biologiques, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que vous faites dans un modèle input-output, une machine par exemple qui consomme du charbon, du pétrole? Vous prélevez sur un environnement dont vous pouvez vous tamponner, en payant un prix, simplement. Vous prélevez une ressource que vous séparez du reste à titre d'input. Vous sélectionnez des inputs, c'est-à-dire des entrants. Énergie, matière première, travail, des machines, bon. Vous les combinez et vous obtenez un résultat qui est grosso modo, je vais dire, dans un différentiel de 1 à 10 000. Il va pas mal. Vous multipliez l'effort initial, et ça c'est vraiment l'état de très fort rendement, mettons jusqu'à 10 000. Allez, c'est gentil, jusqu'à 100 000. Vraiment un cas extraordinaire. Bon. Et au fond, vous raisonnez à ce moment-là en termes très simples, minimisez le coût des intrants, de vos ressources initiales prélevées, maximiser le résultat. Donc, travail comme un œuf, réussit comme un bœuf, et pas l'inverse. Si vous regardez maintenant, qu'est-ce qui se joue dans les biotechnologies? Pourquoi les biotechnologies sont un modèle tellement attirant, les nanotechnologies idem d'ailleurs, pour les modèles de développement actuels? C'est que le modèle n'a plus rien à voir. Là, quand vous produisez de la vie, vous apercevez d'une chose, c'est que vous avez un extraordinaire gâchis initial d'input que vous ne pouvez pas préciser à l'avance. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sélectionner les bons spermatozoïdes qui vont féconder le bon ovule pour fabriquer des prix Nobel. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez un milieu extrêmement diversifié, et là vient la valeur intrinsèque de la biodiversité, qui a des chances de donner naissance à un vivant, à des cellules vivantes, et adaptées aux transformations de l'environnement ou à un hétéro-événement, c'est-à-dire quelque chose de con que vous n'aviez pas prévu qui arrive, parce que dans un milieu naturel, c'est ça qui arrive tout le temps, donc faculté d'adaptation, de transformation, etc. Et là, donc, les inputs, vous ne pouvez pas les prélever à l'avance et calculer au plus juste. Mais, alors vous allez me dire, c'est un milieu, c'est un système qui n'est pas du tout économique. Si, parce que ça se rattrape. Parce que la multiplication cellulaire, on passe de 2 cellules à 2 milliards. Donc le rendement de 2 milliards et de 2 initiales est bien. Sauf que ce n'est pas 2 initiales au sens, si vous voulez, de 2 ressources que j'ai été acheter. Ça va être en fait, sur un milieu vivant surabondant, quelque chose que vous allez capter intelligemment, mais l'essentiel de votre intelligence va être, je dirais, de surfer sur le processus et pas de construire des digues et de canaliser. C'est-à-dire, ça va être de surfer sur la complexité du vivant et de tenter un petit peu de canaliser, un petit peu de prélever, mais surtout pas de provoquer les catastrophes que provoque un découpage préalable d'inputs qui sont arrachés de leur milieu global vivant et qui, du coup, provoque des effets cataclysmiques qui sont les interactions multiples que vous avez. Parce qu'un système complexe, si vous voulez, chose que je voudrais vous mettre dans la tête, un système complexe n'est pas une structure. Vous avez la tête farcie, à cause des mathématiques élémentaires, de raisonnements structuralistes qui s'ignorent. Qu'est-ce qu'une structure? Et Dieu sait si tout le monde, dans les années 60, s'est emparé de la mirifique de la chose. C'est une structure, c'est, si vous voulez, un nombre de relations finies, préalablement définies, avec un nombre indéfini d'éléments. Alors qu'un système complexe, c'est un nombre infini de relations, non préalablement définies, ex ante, qui comprend soit un même nombre, un nombre fini d'éléments, soit un nombre infini d'éléments. Du coup, ces relations infinies qui se recréent, qui se multiplient, qui ont des effets dynamiques, et qui, à mon avis, sont... Il est discutable de les approcher par une matrice qui tournerait jusqu'à un état stable, parce que c'est trop complexe même pour qu'on arrive à faire fonctionner le calcul matriciel comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, si vous voulez, dans le cas de structure, de, non pas de structure, mais de système complexe, vous avez les modèles input-output qui sont pris en défaut les uns après les autres et qui nous amènent à commettre exactement l'erreur de raisonnement que soulignait Gilles Le Cardinal. Donc si vous parlez de développement durable, abandonnez le raisonnement par structure, faites appel au système complexe, et ce n'est pas parce que vous aurez découvert trois relations en apparence stables, économétriquement stables, que vous avez découvert quoi que ce soit sur le fonctionnement, la dynamique et les possibilités d'innover du système. Parce que le vivant se définit par une innovation permanente. L'activité intellectuelle se définit par également une innovation permanente. Ce qui revient grâce à l'informatique, merci l'ordinateur, qui est con comme un balai, de nous avoir permis de découvrir ce qu'était l'intelligence, c'est-à-dire la résolution de questions non préalablement posées, hein, la résolution et donner une réponse nouvelle à des questions non préalablement posées, codifiées, et dont la réponse avait été préprogrammée par l'ordinateur. Parce que ça, nous savons le faire, c'est automatisable, etc. L'invention, la production de connaissances nouvelles et l'invention, c'est une autre paire de manches. Alors,
si, l'exemple, si c'est les externalités. Si on veut fini. Pouvoir manger, il faut s'arrêter.
Alan Kestenay. Ah oui, on a Alan. Bon, tant pis. Non, bah, ça fait rien. On arrête les externalités, je ne vais pas en parler maintenant, mais vous avez le document, tu peux l'envoyer.
Le document, il y a tes transparents qui sont sur le site. Le
bon, y a, mais il n'y a pas, pas lequel... cet exposé-là qu'il faudra mettre, non ?
Il y a ton transparent, de... enfin on en rediscutera.
Bon, on en rediscutera. Voilà, bon, si vous avez deux trois
donc,
questions,
il reste,
vous avez 5 minutes.
Il reste, normalement, il reste 1 minute 30 de questions.
1 minute 30 de questions.
En ayant intégré un quart d'heure de supplémentaire. Bon,
oui. Ça a fait penser, pardon, je n'ai pas entendu.
Au diagramme de Rostock.
Oui.
Je veux savoir si d'après vous, le développement recyclable, c'est la prochaine étape, si oui, est-ce qu'on peut toucher à ce passage ?
Oui, je pense qu'il y a une possibilité. Alors, je n'ai pas évoqué, c'est celle du casque. Si vous voulez, on passait d'un système d'économie illimitée, hein, de ressources illimitées, et d'écologie de l'esprit. Aujourd'hui, on passe d'une écologie de tout ce qui est naturel, de ressources matérielles, et une économie de l'esprit. C'est-à-dire que l'économie de l'esprit, en fait, découvre une possibilité de développement extrêmement forte, parce que le chantier de la compréhension des systèmes complexes, de l'action dans des systèmes complexes en univers incertain, est un défi humain pour l'intelligence humaine et pour la création de richesses nouvelles, bien plus important, et qui est nécessaire à résoudre les nouveaux termes de l'économie matérielle qui sont ceux de l'écologie. Car l'économie matérielle aujourd'hui, maintenant, est bornée par la nécessité de renouveler globalement le système. Si vous voulez, on est à un niveau global, un niveau de la planète entière, dans le problème que déjà les Indiens en Amazonie avaient dans le néolithique, ou quand ils sont passés du paléolithique au début du néolithique, c'est-à-dire quelle est la charge maximum qu'on peut mettre sur un système sans que tout pète. Mais là, ce qui pète, c'est plus mon champ, c'est plus 3 hectares, c'est plus l'Amazonie, c'est la planète. Donc, il faut le développement de la noosphère considérable et du complexe pour résoudre des problèmes, y compris d'ingénierie, de la décision, d'ingénierie, des processus, des matériaux, etc., pour résoudre la question que le développement maintenant doit être soutenable et biologiquement durable. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bon, pas de plus de questions, vous avez trop faim.
Vas-y.
Non, alors la fac de Mandeville, la fac de l'agriculteur. En économie politique, la fac de Mandeville, c'est l'histoire de la ruche. C'est, si vous voulez, on passe. Avant, dans le monde chrétien, on disait vertu publique, vertu privée, vertu divine, cité de Dieu, cité des hommes, et pour répondre à ce qui avait été dit précédemment, le christianisme a une théorie de la cité de Dieu qui fait que même la nature ressemble à l'homme, mais l'homme ressemble à Dieu. Et donc il y a un équilibre global, équilibre qui va être rompu avec la Renaissance et avec le 17e siècle, et notamment l'expulsion de Dieu. Donc la référence devient humaine, auto-centrée, et c'est là où on peut parler d'anthropomorphisme. Parce que, d'un certain point de vue, le christianisme et la religion vont dire qu'ils sont théomorphiques. Non. Mais, Mandeville libère l'économie politique en écrivant une fable qui va et on l'a appelé Man Devil. On a dit qu'il était un homme démon. Parce qu'il dit la chose suivante, il y a une stricte discontinuité entre les vertus privées et les vertus publiques. Avant, on disait, si le souverain est bon, s'il est chrétien, royaume très chrétien, alors il fera une politique bonne. Et puis après, ça, c'est devenu, à la Renaissance, si l'homme est juste, son action collective va être juste. Si le prince est bon, le royaume sera bon. Mandeville prend la fable des abeilles, il ne lui dit pas du tout. Si, il était une fois une ruche dans laquelle il y avait des abeilles qui faisaient n'importe quoi. Évidemment, c'est une métaphore pour l'activité humaine. Il y avait des bons, des voleurs, des méchants, des trucs épouvantables. Et le résultat était une cité merveilleuse. Parce que, finalement, les voleurs donnaient du travail aux serruriers. Les hackers permettaient à la Société Générale de réemployer d'autres gens pour etc. Bien. Donc, tout le mal était justifié et ça marchait très bien. Et donc, Mandeville écrit, tant mieux, vice privé. Les vices privés, c'est-à-dire l'appât du gain, la cupidité, etc., enfin toutes les gracieusetés, qui sont quand même des péchés capitaux dans la représentation du christianisme. Hein. La gourmandise, l'orgueil, évidemment le meurtre, etc., tout ça c'est des péchés capitaux. Mais là, ça devient des vertus publiques. Et il dit, et sa femme, il montre, on a moralisé les abeilles. Il n'y avait plus que des bonnes abeilles. Eh bien, c'est un désastre, le truc s'est cassé la gueule. Au fond, Mandeville répond à l'avance. C'est la réponse de l'économie politique à l'utopie rousseauiste et robespierriste que si le peuple est vertueux, individuellement, le régime sera bon. Et en fait, ce que montrait la terreur, c'est que le souhait d'avoir le peuple vertueux peut aussi produire la terreur. Alors, ça c'est un truc classique en économie, c'est le no bridge, pas de possibilité d'inférer du micro-économique ou de l'individu au global et au collectif. Alors, ma fable, là, pour aller très vite, c'est la chose suivante, c'est la différence entre l'apiculteur et l'agriculteur. Mais ça, je ne peux pas vous la raconter, si je vous la raconte, c'est trop long. On ne va pas manger. Parce qu'il me faut 5 minutes encore. Donc, c'est un peu comme les mille et une nuits, j'arrête. Et prochain truc, voilà.
Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que j'ai l'impression que mon ordinateur a rendu l'âme. Ce serait temps là, un peu.